L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, on parle du foot féminin qui se développe de plus en plus en Mayenne. On en parle justement avec un coach et une joueuse de l'ancienne à Château-Gontier. Nous recevons en studio Maëlle Grenier, le nouveau directeur du Carré, la scène nationale et le centre d'art contemporain à Château-Gontier. Et puis, deuxième épisode de notre série autour des serres au comptoir à Forcé, avec l'une des productrices qui participe à cette épicerie locale ouverte 24 heures sur 24. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. Bonne nouvelle pour les automobilistes et les commerçants à Laval. Le stationnement en centre-ville reste gratuit tous les samedis jusqu'au 31 décembre prochain. Ne sont pas concernés les parkings avec barrière. Objectif de cette mesure, selon Florian Bercot, le maire lavallois, rendre le centre-ville plus attrayant et favoriser le commerce indépendant. L'État soutient les travaux du stade Francis Lebasserre. Laval Agglomération va bénéficier d'une aide de l'État de 300 000 euros, soit un tiers du budget total, pour réaliser d'importants travaux sur la tribune nord du stade dès le premier trimestre 2021. Des travaux de mise aux normes essentiellement. La tribune nord du stade sera donc fermée dès janvier 2021. Et puis plus que quelques jours pour aider le collectif des festivals 53. Plus de 20 festivals du département se sont regroupés en collectif pendant le confinement. Ils ont aujourd'hui lancé une cagnotte jusqu'à ce jeudi 1er octobre dans l'idée de créer une ressourcerie culturelle qui permettrait de mutualiser le matériel. Pour y participer, retrouvez sur eloasso.fr, vous pouvez taper collectif des festivals du 53. 3670 euros ont déjà été récoltés sur les 10 000 prévus. Et puis, on en parlait dans les titres, le foot féminin en pleine ascension en Mayenne. Pas forcément fulgurant, mais tout de même, l'équipe du club de l'ancienne à Château-Gontier est née il y a 5-6 ans. De 12 joueuses seniors, elles sont passées aujourd'hui à 53, avec des équipes jeunes dans chaque catégorie. Une satisfaction pour ses dirigeants et pour les joueuses qui ne comptent pas s'arrêter là.
Donc Christophe Huot, je suis responsable de la section féminine d'une façon générale. En fait, il y a 4-5 ans, il y avait un groupe de féminines adultes qui s'était constitué. On a commencé avec 12 joueuses seniors adultes. 4 ans après, on est 53. Déjà, structurellement, le foot féminin attire de plus en plus. On a tout de suite cherché à s'encadrer, à apporter un vrai encadrement. On a voulu être très très patient parce que l'équipe senior fille a joué en foot à 8 pendant 4 ans. On leur doit un grand coup de chapeau d'ailleurs à ces filles-là, puisqu'elles n'ont pas spécialement pris toujours beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais il y a eu un groupe qui s'est constitué et là, elles sont récompensées maintenant parce que depuis uniquement 2 ans, elles jouent à 11. Jusqu'à présent, on avait privilégié la jeunesse qui jouait, elle, depuis 4 ans à 11 en U18, les plus jeunes. Mais en aucun cas, comme certains clubs ont pu le faire, on a voulu les monter pour qu'elles constituent une équipe senior. Et ça nous a permis de faire évoluer nos joueuses tranquillement, qu'elles prennent du plaisir, qu'elles évoluent. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un fil conducteur très important, c'est que l'encadrement, on le féminise parce que c'est important que les filles ne soient pas que encadrées par des garçons. Pour toutes les catégories, on est 16 encadrants. Il y a 9 jeunes filles ou femmes, dont des joueuses, dont des mamans qui se sont investies aussi, qui sont devenues dirigeantes, etc. Voilà. Dimanche dernier, pour la première fois, l'équipe senior a joué en Coupe de France féminine. Donc ça, c'est vraiment un événement important pour le club. On a eu la chance de jouer sur le terrain d'honneur, donc ça veut dire que même au niveau du club, il y a une vraie reconnaissance. Je crois qu'encore, le football féminin, c'est pas encore. Il y a encore cet étonnement de dire ah oui, tu joues au foot, c'est pas encore quelque chose de naturel, que comme quand t'es une fille et puis tu vas faire la gym, quoi. Faut que dans les mentalités, ça avance tranquillement. Le foot féminin, il est largement aussi beau que le masculin.
L'arc de cercle, les filles, arc de cercle. Les verts, premier poteau.
Céline Ricotto, j'ai 23 ans. Je suis joueuse du coup à l'ancienne de Château-Gontier depuis maintenant 6 ans. J'ai vu mon frère commencer, du coup, moi j'étais à la danse, je faisais du flamenco, je crois. Donc disons que les talons et les castagnettes, c'était pas mon truc. Jeune, j'ai demandé à mes parents... j'ai imposé à mes parents, je vais faire du foot. Et puis depuis, j'ai continué. Même moi qui du coup ai connu l'époque où il n'y avait pas du coup d'équipe féminine tout court. J'ai commencé avec les garçons jusqu'à 15 ans. Et puis à 15 ans, on m'a gentiment dit « Ah non, tu ne veux plus jouer avec les garçons ». Donc j'ai intégré, comme je vous disais, Bien et Gênes. Et là, du coup, il y avait une équipe senior. Et puis depuis 6 ans, oui, c'est impressionnant, quoi. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. À leur âge, j'aurais trop aimé avoir des filles seniors pour aller les voir. On a une très, très bonne ambiance. Le coach y est pour beaucoup aussi. Du coup, je suis passée sur le banc, à côté coach. Donc, cette année, je m'occupe de la catégorie U15 féminine, donc du groupement jeunes des pays de Château-Gontier. Et dans le but, du coup, de passer des formations pour obtenir le BMF, qui me permettrait de devenir éducatrice, on va dire, un peu plus formée et professionnelle, si je peux dire ça comme ça. Je suis joueuse de base, donc le temps de justement passer de l'autre côté et de se dire, oui, bon, il faut réfléchir. Parce que quand on est joueuse, on dit tu fais, et après, après, ça devient des mécanismes et tu le fais. Que là, devoir expliquer, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. D'où le fait que je veux passer des formations pour pouvoir adapter mon vocabulaire, ma gestuelle au public. En tant que joueuse, je pense que ouais, cette année, on a une bonne équipe. J'espère, pourquoi pas, une montée en R2 l'année prochaine.
Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le club de l'ancienne à Château-Gontier organise des portes ouvertes pour les jeunes joueuses. Rendez-vous au stade de la Mitraie à Azé demain et tous les mercredis du mois d'octobre de 17h à 18h30. Les séances d'essai sont gratuites.
You're the only one we're seeing. You're the place we're being. You're the best we're sleeping. That's the one we're next to you. You're the only one we're seeing. You're the place we're being. You're
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio et c'était Cold Cold Mal de 5 motels. Avec mon superbe accent, je m'en excuse par avance. Il est arrivé depuis un mois désormais à la tête du Carré. Maël Grenier est le nouveau directeur de la scène nationale et du centre d'art contemporain de Château-Gontier sur Mayenne. Le remplaçant de Babette Masson a présenté sa saison culturelle il y a quelques jours au public, enfin sa saison ou presque, on vous expliquera ça tout à l'heure. L'occasion de revenir en tout cas sur plusieurs temps forts de cette saison 2020-2021 et de détailler ses projets pour l'année à venir. Bonjour Maëlle Grenier.
Bonjour.
Alors comment déjà s'est passée cette arrivée au Carré il y a un mois, ou même un peu plus maintenant, mais officiellement on va dire depuis un mois?
Eh ben, c'est une période de prise de fonction, donc forcément une période intense, avec la découverte d'une équipe, la découverte de l'équipement, la découverte des nouveaux partenaires, et puis d'un territoire que je découvre. Donc je suis en pleine immersion et c'est en cours.
Donc oui, j'imagine que là, c'était une rentrée un peu sur les chapeaux de roue, en plus avec les conditions sanitaires pas évidentes.
Oui, tout à fait. C'est vrai que là, du coup, on cumule, c'est une période étrange pour plein de choses. Du coup, on se retrouve avec là une présentation de saison qui n'a pas pu se faire au mois de juin. Donc on accumule pas mal de choses. La nouveauté, donc j'arrive avec un projet, avec des désirs. On arrive aussi avec une saison qui n'a pas vraiment démarré avec cette suspension, et puis avec des contraintes qui sont celles de l'accueil public qu'on questionne tous les jours. Donc c'est sûr que ça... on est dans l'étrange, mais comme tout le monde.
Comme tout le monde, effectivement. En tout cas, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes tout nouveau en Mayenne.
Oui.
On va revenir un peu justement sur votre parcours, si vous voulez bien. Juste avant la Mayenne, vous étiez directeur adjoint de la Maison de la Culture de Nevers dans la Nièvre, mais vous avez commencé plutôt de l'autre côté, sur les planches de théâtre, c'est ça ?
Eh oui, il y a bien longtemps maintenant, ça fait une quinzaine d'années, effectivement, ma première période de vie professionnelle était au plateau en tant que comédien, donc j'ai une vie artistique derrière moi, et c'est vrai qu'il y a maintenant une quinzaine d'années, j'ai décidé de développer un petit peu de mes cordes à l'arc professionnel, et j'ai eu envie de voir ce qui se passait, non pas de l'autre côté des coulisses, mais... au niveau de la production, au niveau du montage, de tout ce qui me faisait vivre à cette époque. Et j'avais déjà une activité qui sortait un peu du plateau, puisque j'étais également chargé de production, assistant metteur en scène, donc j'allais un petit peu découvrir, le montage de production et comment les spectacles et festivals s'inventent, se créent, les événements se montent. Et j'ai eu également une activité de programmation assez tôt, même quand j'étais comédien. Donc j'avais déjà une diversité d'activités, et il y a un jour j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école et je suis reparti à l'université et je suis passé de l'autre côté, quoi.
D'accord, donc qu'est-ce qui vous a plu justement? C'est pas trop difficile d'abandonner complètement les planches et puis d'être dans la programmation?
Non, parce que c'était un choix qui était mûr, c'était une volonté, une curiosité, une envie de découverte. C'est vrai que souvent on me pose la question parce que les chemins se font plutôt dans le sens inverse. Donc on va dire on est plutôt assez rare du plateau à abandonner, à quitter notre vie artistique. Et Dieu sait que pourtant j'avais une vie artistique remplie qui me faisait vivre et puis qui me nourrissait. Mais j'ai eu vraiment cette envie d'aller voir au-delà, c'est-à-dire c'est tout simple, mais entre guillemets la vie des autres. C'est-à-dire que quand on est artiste, on est facilement dans notre bulle, malgré tout... on est dans un écosystème particulier, on a un rythme qui n'est pas celui de la majorité d'entre nous. Et cette curiosité, moi, aujourd'hui, elle me nourrit, elle me remplit. Je ne regrette absolument pas. Je retrouve une activité artistique à travers la programmation. Quand on est programmateur, on a une capacité de créativité, avec évidemment la création des autres. Mais ça demande de l'invention, des projets, une forme d'originalité. Et je m'y retrouve bien, et au contraire, je suis très content d'avoir découvert tout ce que j'ignorais à l'époque.
Et donc justement, en passant notamment par quelle structure, quel festival, avant d'arriver ici en Mayenne ?
Alors, on va dire qu'à partir du moment où j'ai quitté le plateau, je suis venu en fait faire des études complémentaires en management d'entreprise culturelle à Angers, vous voyez, comme quoi c'était pas si loin à l'époque, une époque où j'ai vécu à Nantes. Et puis assez rapidement, j'ai démarré en tant qu'administrateur, c'est-à-dire toute la gestion financière, ressources humaines, budgétaires des structures. J'ai démarré en travaillant avec un festival de musique lyrique en Bretagne, dans le Morbihan. J'ai également été administrateur d'un label jazz à Nantes. Administrateur d'une compagnie. Et puis, j'ai eu l'occasion de partir outre-mer. Je suis parti à l'île de la Réunion, où j'ai été effectivement là administrateur d'une compagnie de théâtre d'objets et d'un festival international de marionnettes. Et sur l'île de la Réunion, ce qui était tout à fait imprévu, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Centre dramatique de l'océan Indien, qui est le seul centre dramatique outre-mer. Il faut savoir qu'il y en a 38 en France, et donc outre-mer. Et là, j'ai eu une occasion d'intégrer une structure, parce que jusque-là, je travaillais plutôt sur des compagnies ou festivals. Donc une structure labellisée, et je suis passé donc, d'administrateur à directeur adjoint. J'ai une expérience très riche sur ce territoire et dans cet équipement qui m'a énormément plu. Et à partir de là, donc, j'ai passé 4 ans au Centre dramatique et je suis revenu en métropole par la Maison de la Culture de Nevers Agglomération, où j'étais directeur adjoint également pendant 4 ans, avant d'arriver ici au Carré.
Donc pour 4 ans, c'est ça? Non, pas du tout, ça suit la règle des 4 ans.
Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup bougé. Là, je ne serais pas mécontent de me poser un petit peu et de développer un projet, donc certainement un peu plus.
D'accord. Mais donc, en tout cas, vous êtes arrivé, donc vous le disiez, ici à Château-Gontier. Qu'est-ce qui a guidé votre envie, justement, et vos projets pour le Carré, pour cette scène nationale et donc ce centre d'art contemporain?
Eh bien, en fait, ça faisait 2 ans, en réalité, que je réfléchissais à candidater à la direction d'une structure. Et justement, l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure m'a nourri, dans le sens que je me suis tout à fait plu dans une structure de la taille équivalente à celle du Carré. Donc, par exemple, le Centre dramatique de l'Océan Indien était à peu près équivalent en termes de budget, d'équipe, d'équipement. Et c'était un format qui me plaisait bien. À Nevers, nous étions un petit peu plus nombreux, une structure un petit peu plus grosse. Donc le format m'intéressait, le territoire aussi m'a tout de suite intéressé. Donc j'avais regardé un petit peu ce qui se positionnait, quelles étaient les scènes qui pouvaient se libérer dans les mois à venir. Mais j'ai bien réfléchi, j'ai étudié longtemps, et puis je me suis dit que j'allais tenter en priorité le Carré. J'ai laissé passer plusieurs autres scènes que j'aurais volontiers, tenter de rejoindre. Et puis voilà, j'ai décidé de laisser passer pour mettre le Carré en priorité parce qu'il y avait pour moi cette alchimie entre la taille de la structure, la double identité artistique de la structure, centre d'art, scène nationale, et le territoire, un territoire que je ne connais pas, hein, je le dis, je connais un petit peu la région Pays de la Loire, mais je ne connais pas la Mayenne. Et je suis donc passé par la Nièvre, qui est un territoire très rural également, probablement encore plus, je pense, que la Mayenne, même si certains Mayennais parfois ne me croient pas, ça existe. Et du coup, j'ai trouvé que le Carré, puis alors en plus cet écrin patrimonial, enfin le bâtiment est extraordinaire. La taille de la ville aussi, parce que c'est un détail, mais je vis ici, hein, voilà, et c'est aussi des choix de famille. Moi, j'ai des enfants, une femme, des enfants, donc il y a tout un écosystème personnel, professionnel. Et on va dire que là, jusque-là, le Carré était en numéro 1 dans mon grand chelem personnel.
Et donc voilà, effectivement, pardon, de ce numéro 1 dans vos priorités. Ensuite, vous avez été pris, sur un projet, en fait. Quand on candidate, effectivement, on est pris sur un projet. Et quels étaient justement les grands axes de ce projet?
Alors, c'est un projet qui est forcément assez riche, puisqu'il est fait d'un petit peu tous les désirs qu'on souhaite développer. C'est un projet qui s'étale sur 4 ans, hein, sur de 21 à 24. On va dire que un axe fort de mon projet, c'est d'ouvrir un maximum ce lieu extraordinaire qui se trouve avoir les défauts de ses qualités. Il est dans un lieu majestueux et un lieu qui est enceint, voilà, qui est clos au regard, clos à ceux qui n'ont pas encore osé passer ces beaux murs d'enceinte. Un lieu de patrimoine peut parfois impressionner, ou en tout cas considérer que ça appartient au passé, ou ça appartient à une forme un groupe de personnes qui ont la culture qui convient. Donc j'ai axé l'essentiel de mon projet sur l'ouverture, sur le fait d'amener toute la diversité de la créativité de ce lieu un petit peu ailleurs, notamment sur le territoire du pays, pas mal sur la ville de Château-Gontier, à travers des formes qui peuvent être plus mobiles, des installations sonores, des choses qui sont assez légères mais qui peuvent être présentes. Je voudrais aussi développer la partie art contemporain, notamment la plus visible possible. Et comme on a a priori un projet, un beau projet de rénovation de la chapelle du Gentay, qui est le lieu du centre d'art, ben ça va nous obliger à nous réinventer, à proposer des formes ailleurs, hors les murs, pour le coup, c'est le mot. Et j'espère, les plus visibles au public, parce que voilà, les conditions de réussite d'un projet, c'est sa visibilité. Donc voilà, j'ai plusieurs axes forts dans le projet, mais ma priorité en tout cas, c'est de rendre ce lieu extraordinaire le plus commun pour tout le monde à Château-Gontier.
Voilà, donc toujours dans cette dynamique d'ouverture au plus grand nombre. On va parler d'abord de cette saison 2020-2021, alors que vous n'avez pas construite, puisque les saisons se construisent un an à l'avance ou un peu plus. Mmh. Donc là, forcément, c'est pas de votre chef, on va dire, mais vous la défendez quand même. Vous avez vu certains des spectacles, forcément. Est-ce que, déjà, première question qu'on pose souvent en ce moment, est-ce qu'il y a eu des annulations ou des reports par rapport à ce qui était prévu ?
Alors, je sais que l'année dernière, effectivement, l'équipe a dû annuler pas mal de spectacles, mais bon, ils ont fait le choix d'indemniser tous ces spectacles-là de façon à ne pas pénaliser les artistes en bout de chaîne. Pour cette saison-là, du coup, elle s'est construite, c'est Babette Masson donc, qui l'a construite avec l'équipe. C'est une saison qui est quand même assez riche, aussi avec une belle diversité de disciplines artistiques. Mais sur cette saison, pour l'instant, je ne déplore qu'un seul report. Je vais devoir reporter un spectacle qui était prévu au mois de février, un spectacle debout qui était prévu à l'espace Saint-Fiacre. Et bon, pour l'instant, les conditions ne permettent pas d'imaginer qu'au mois de février, les spectacles debout auront lieu. Donc, par sécurité, on va reporter cette date-là, qui est une date en plus, c'est un concert de rap, donc plutôt quand même à destination des jeunes, des ados, et qu'on ne veut pas laisser de côté. Donc, on va décaler ça, on va trouver une date à l'automne 21.
D'accord, mais hormis cette date, pour le coup, tout le reste pour l'instant est maintenu.
Tout est maintenu. Ouais.
Très bien, c'est donc l'occasion d'en parler puisqu'on va pouvoir en profiter. Avec la prochaine date, justement, ce sera le 9 octobre à 20h30 avec un trio, Blonde and Blonde, qui, du coup, de ce que j'ai compris, c'est deux sœurs et un frère qui reprennent un peu la chanson française, mais à leur sauce, avec c'est beaucoup ça. D'humour et un fort accent suédois.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est la saison qui va démarrer en légèreté, et c'est pas si mal pour la période qu'on traverse. Donc un spectacle d'humour à trois interprètes, qui sont donc des chanteurs suédois avec un accent local, et qui ont pour mission d'animer une soirée de mariage, de la soirée... de leur meilleur ami, enfin le mariage de leur meilleur ami. Et bon, ils ont un faible pour la chanson française et les grands classiques du répertoire de la chanson. Mais disons qu'avec leur filtre suédois et leur culture, ça donne des résultats assez surprenants. Et donc parfois, il y a des paroles qui se retrouvent pas forcément bien prononcées. On arrive dans des quiproquos compliqués. Enfin, donc c'est un enchaînement en fait de situations ubuesques. Donc c'est une soirée tout en légèreté, en musique. Qui promet de bien fonctionner. D'ailleurs, on l'a présenté vendredi dernier. Je crois que depuis, il y a eu pas mal de réservations. Donc voilà, je crois qu'il reste encore quelques places. Mais c'est vrai que les jauges étant un petit peu contraintes, il ne faut peut-être pas trop tarder,
N'hésitez
en tout cas, pour prendre les dernières.
À réserver parmi les dernières places. Parmi les autres dates, forcément, de cette belle programmation, on retrouve aussi un spectacle familial du Théâtre d'Ombre. Ça s'appelle Natchaf et ce sera le 10 novembre prochain.
Oui, alors Natchaf, c'est un très beau spectacle, là que j'ai eu d'ailleurs l'occasion d'accueillir à Nevers. La première a eu lieu l'année dernière à Nevers. Très beau spectacle familial par la compagnie des Ombres Portées. Donc, comme son nom l'indique, c'est un théâtre d'ombre. Et Natchaf, en fait, c'est l'histoire d'un petit cirque nomade qui circule de ville en ville, de ville en village, et qui un jour s'installe et malheureusement n'est pas toléré, n'est pas accepté par les autorités locales qui considèrent qu'il nuise un petit peu à la tranquillité et au voisinage. Et du coup, là, il y a une histoire d'échauffourée, un circassien se retrouve emprisonné, et de là, il décide, avec les prisonniers et toute l'équipe, tous les circassiens, toute l'équipe du cirque, d'échafauder son évasion. Et en fait, Natchaf, en langue romanie, veut dire s'enfuir. Donc c'est un spectacle sur la liberté d'expression, bien sûr, et aussi sur la liberté de vivre. Et surtout, ce qui est extraordinaire dans ce spectacle, c'est que c'est un ouvrage d'art. Pour faire du théâtre d'ombre, il faut forcément découper les objets. Et donc, il y a un tas de petits castelets qui permettent de projeter ces ombres, qui est aussi à observer après le spectacle, parce que c'est une machinerie, une horlogerie de spectacles vivants très belle, avec voilà, c'est de l'artisanat d'art qu'il faut savoir venir découvrir, parce que c'est assez rare dans le paysage du spectacle vivant. Et c'est un très très beau spectacle familial, autant pour les petits que pour les grands, puisque vraiment la technicité est vraiment à découvrir. Donc j'invite vraiment les gens à cette curiosité.
Donc Natchaf, ce sera le 10 novembre. Et un peu de temps avant d'ailleurs, j'allais dire juste après, mais non, pas du tout, ce sera le 3 novembre. Alors là, du coup, on change d'univers, il y aura un spectacle de danse, un double spectacle même, puisqu'il y aura Rivers et Phasm lors de la même soirée.
Tout à fait, ça c'est une jolie programmation, que j'aurais d'ailleurs tout à fait pu imaginer, puisque j'avais vu le spectacle Phasm. Je n'ai pas vu Rivers, mais c'est deux très belles propositions, c'est l'occasion de découvrir deux univers en une seule soirée. Deux formes courtes, hein, qui sont de 30 à 50 minutes chacune. Rivers, c'est donc la chorégraphe Yann Gallois qui propose à ses danseurs hip-hop une contrainte qui est de garder la tête constamment en connexion avec le sol, ce qui n'est pas toujours la technique hip-hop traditionnelle. Donc là, ça apporte une contrainte qui amène une liberté de création folle. Et c'est vraiment à découvrir parce que cet objectif commun est brillamment relevé. Ça donne une chorégraphie atypique et en tout cas très puissante. Et ce spectacle-là sera suivi par une autre proposition chorégraphique courte d'un duo de danseurs donc, qui s'appelle Phasm, la compagnie Libertivore de Fanny Soriano. Une très belle proposition, assez organique, sur justement les phasmes, ces petits insectes qui se transforme presque en brindilles, en tout cas, qui sont à mi-chemin entre l'animal et le végétal. Et donc là, il y a une exploration chorégraphiée sur justement le rapport à la nature, le rapport à l'hybridation des êtres. Et ce duo à mi-chemin entre la danse et l'acrobatie est vraiment très, 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 très beau. 25 minutes de suspension. Là aussi, c'est une belle exploration. Là, on a une proposition danse qui fait envie. Donc franchement, j'incite à découvrir là aussi.
Donc deux univers différents, mais en tout cas à découvrir le 3 novembre prochain. Et puis on peut pas parler de toutes les dates,
mais on va finir toute la saison
par une date un peu plus lointaine. Celle-ci, ce sera le 22 avril avec donc une pièce de théâtre, Jusque dans vos bras.
Ah oui, alors Jusque dans vos bras, là c'est la compagnie Les Chiens de Navarre. Là aussi, je fais une petite parenthèse, mais j'étais ravi de la programmation de Babette. Parce que voilà, ça fait partie des coups de cœur aussi de mon côté. La compagnie Les Chiens de Navarre, c'est une compagnie, je crois, qui n'est jamais venue ici à Château-Gontier, compagnie de théâtre. Et c'est une compagnie, pour dire en peu de mots, c'est une compagnie qui décoiffe, voilà, qui vient vraiment nous remuer. Voilà. Je ne veux pas dire nous brutaliser, mais nous remuer avec énormément de pertinence, voire d'impertinence souvent. Et là, il s'agit en fait d'une fresque. Ils ont décidé de questionner l'identité française à travers plusieurs tableaux, des tableaux théâtraux, mais ils travaillent pas mal à base d'improvisation, hein, et c'est une écriture de plateau. Et là, ils font une proposition de lecture de l'identité française à l'heure, à l'heure des migrants, à l'heure de la mondialisation, à l'heure de ces difficultés de repli nationaux. Et qu'est-ce que ça veut dire être français? Quelles sont les valeurs qui font notre démocratie? Et du coup, ils nous mettent souvent devant nos limites, hein, devant nos contradictions. Donc ça peut parfois être assez abrasif. Mais alors là, sincèrement, aussi une belle pépite à découvrir. Il faut savoir que ça va décoiffer.
D'accord.
Voilà ce que je peux en dire.
On a retenu en tout cas le message. Ce sera donc cette pièce Jusque dans vos bras le 22 avril. On peut retrouver toute la programmation du Carré sur le site internet ou en venant ici au Théâtre des Ursulines.
Absolument. L'équipe est à pied d'œuvre, disponible en tout cas pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Sachez qu'on y travaille depuis des semaines et des semaines. Donc voilà, on accueille à bras ouverts puisque le spectacle doit rester vivant.
Justement, un spectacle vivant et ça commencera donc le 9 octobre, c'est ça la prochaine date. Merci en tout cas Maël Grenier d'avoir été avec nous en studio et on le rappelle donc vous êtes le directeur du Carré, je vais y arriver, à Château-Gontier.
Merci.
Up in the sky, it's a bird.
It's a plane.
It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman.
I'm Superman. I'm a Superman. like you better move. The Alexa come on with the musical smoothie. Super bad man, I wear the girl them call me. Wicked in a bed, we make you bubble like Pepsi.
Bubble like Pepsi.
Sexy body girl, them a fi wine up them booty. Hattie hattie, then them a fi taste my sensi. Ability, limited, glamity boy, anything goes.
Tell you me say anything goes.
I'm a big DJ, you sleeping all the way. But they ain't way to say you see you every single day. In your life, roll the dice, see the eyes be a night. But they ain't way to say you see you every single day. When you win, when you slide it, you never ever ever seem to get it. When you win, when you slide it, never ever ever seem to get it. I'm a superman.
Fresh out the phone booth, I fall from the sky, but when I do, I land on my own too. Follow you guys, nah, dude, I fly to my own tune. Proper disguise up in the sky without the blue costume. I got moves, usually charge a fee, but my services are free to the populace. The mayor gave me the key to Metropolis, and so I mess through your Lex Luthor's plex in a touch deluxe. Duluth's next to us. West up, your losers could put an X to them. We musics, Professor X students. I think I'm Clark Kent. Bruce Banner, fresh Buddha, move when a loose cannon next to your monsters. But oh well, we're keeping it modest as a sign that it's a summer in hell. And let me be honest, I am flyer than the son of Jarrell. Looking for my lowest lane, got the coldest game for real.
I'm a Superman.
It's the big spliff napper, the sticky tie smoker, the panda mic center. Spitting wicked lyrics every hour, hit songs every day, we no play, we no linger. Who's that? It's the slackness provider, the whackness eliminator, we are the good vibes pusher. Who's that? Spitting lyrics every hour, hit songs every day. How will me say? Skanking it harder, kicking it faster, all of it nice. Taking them a gun shot, them a little bit in my rinse it proper. Taking a couple of pints of lager, hottest time you ever heard. I got them start to melt like butter. Even if you try to learn, man, you won't get any further. Won't get any further. How will me say again?
C'était Superman avec Deluxe, bien sûr. Vous écoutez l'autre radio, évidemment, et c'est l'agité du local. Tout de suite, c'est l'heure de notre feuilleton radiophonique cette semaine. On prend la direction de Forcé et de l'épicerie en libre-service Les Serres au comptoir, qui a été créée par Anne Genvrin, avec des dizaines de produits frais et locaux disponibles 24 heures sur 24. Et parmi eux, on trouve des produits 100% vegan et crus. Je vous laisse sa créatrice vous en parler.
Je m'appelle Céline, 42 Délices, voilà, c'est mon entreprise qui existe depuis 3 ans. Je fabrique des produits végétales crus, déshydratés à basse température. J'ai 3 gammes de produits, je fais des crunchies pour le petit déjeuner, sans sucre ajouté, tout naturel. Je suis labellisée Nature et Progrès, donc tout est bio. Je fais également des barres énergétiques et des petits crackers de légumes. Donc voilà, je vends ça sur les marchés, dans les biocoop. Et puis depuis peu, j'anime aussi des ateliers cuisine végétale en Mayenne. Je recherchais pour moi personnellement une façon de m'alimenter différente. J'avais pas envie d'être tombée malade, de rester en bonne santé, donc je me suis dirigée vers une alimentation plutôt végétale. Et puis par la suite, végétale et crue. Et j'ai eu envie de... Je trouvais difficilement ce genre de produit en fait en Mayenne, même en France. Du coup, je me suis mis à en fabriquer et puis j'ai eu envie de faire découvrir cette façon de s'alimenter au plus grand nombre. Il faut savoir qu'en végétale crue, on peut tout faire. Moi, je fais des entrées, plats, desserts, je fais de la pâtisserie, je fais des fromages, des mousses, des crèmes. Voilà, on peut vraiment tout faire. C'est bluffant, il faut venir découvrir ça lors des ateliers. que je propose.
Alors là, par exemple, en septembre, j'ai fait un atelier petit déjeuner. Il y aura aussi de la pâtisserie crue, atelier pâtisserie, déshydratation. Je fais également des ateliers avec des menus complets. Donc sur des thèmes, donc menu asiatique, menu oriental, voilà. Et puis au moment des fêtes, avant Noël, on fera des chocolats, on fera des apéros festifs, des fromages, voilà. C'est très varié, hein, on peut vraiment... Donc les ateliers sont à Saint-Germain-d'Anxur, à mon domicile, et ça peut aussi être à domicile des clients. C'est moi qui fabrique tout et en plus j'essaye d'utiliser de la matière première mayonnaise au maximum. Tout ce qui est possible de trouver en Mayenne, c'est-à-dire le lin, le tournesol, le sarrasin, le chanvre, toutes ces graines-là sont en Mayenne, donc je trouve ça en Mayenne. Tous les légumes également, on a des super maraîchers bio en Mayenne, donc les fruits, le kiwi, les pommes, tout ça c'est mayennais ou Pays de la Loire. Et puis après, bah, y a que ce qui est impossible, j'utilise des fois des bananes, des dattes, donc ça... Pas encore en Mayenne, malgré le changement climatique, mais j'essaye d'éviter au maximum d'utiliser des produits qui ne sont pas locaux. Je vends essentiellement en circuit très court. Hein. Je vends sur les marchés bio et puis dans les biocoops de la Mayenne. Ma clientèle est très éclectique. Hein. J'ai très peu de végétariens même. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas végétarien qu'on mange pas des produits végétariens. Hein. Des fruits, des légumes, tout le monde en mange. Donc voilà, c'est des curieux. Quand j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans, du végétal où je fabrique des produits végétal crus, on devait être 2 ou 3 en France. Et alors d'aujourd'hui, 3 ans après, il y a plein de petites entreprises qui se sont créées. Mais c'est très bien, hein, c'est au contraire, c'est positif. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à ça et ont envie de mieux s'alimenter.
Et demain, lors de la suite de notre feuilleton, on rencontrera un autre producteur qui propose lui aussi ses produits au serre, dessert, au comptoir. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. À suivre à 20h, The Voice of Cassandre, une sélection musicale d'une heure par un artiste différent chaque semaine, suivi à 21h de Frères de Chaussures. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h15 demain. Très belle fin de journée à tous.
Reportage.
Invité interview.
Voilà, c'est l'agité du local.